intérêt de tous ces jeunes. Et puis tout à coup, il m'a révélé ce que je pouvais dire des saints Marie. N'est-ce pas? La femme qui a eu saint Marie. Et le Seigneur m'a parlé en montrant que c'était les saints sens. Parce que, oui, il y a eu saint Marie, c'est vrai, mais chaque histoire biblique a un sens spirituel. Alors, on a été esclaves de nos sens, hein, on a été mariés à nos sens. Et les uns après les autres, on les a usés, comme ces maris sont morts. Hein. Le sens de la vue, le sens de l'odorat, le sens de l'ouïe, le sens du toucher, le sens du goût. On a tout employé, tout usé, et les cinq sens sont morts. Mais qui est-ce qui nous a mis sous la puissance de nos sens? C'est un certain sixième, qui n'est pas notre mari, et qui est qui? Satan. Satan nous met sous la puissance de nos sens. Puis nos sens, une fois usés, on est encore sous la puissance de Satan, et on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait, on n'est pas libre. Et voilà, il faut rencontrer le septième, qui nous attend au bord du puits, c'était Jésus. Alors j'ai été illuminé, j'ai été rempli d'une joie incroyable. Je n'avais lu ça dans aucun bouquin. Il me donnait cela sous un arbre, dans cette campagne. Au mois de juillet, il y avait les blés autour de moi. Alors j'ai été soulevé, j'étais dans la joie. Puis j'ai apporté le message que justement le sixième n'était pas notre mari, il n'a aucun pouvoir sur nous, c'est Satan, et nous pouvons appartenir au septième, ce qui est arrivé à la femme samaritaine. Puis quelques années après, parce que nous lisons quand même les ouvrages que nous pouvons avoir, qui nous sont même donnés, quelqu'un, sans savoir du tout ce qu'il faisait, m'a fait cadeau d'un livre écrit il y a, c'était au IIIe siècle après Jésus-Christ, Maître Eckhart. Et j'ai lu dans Maître Eckhart exactement cette interprétation. Alors, le Seigneur l'avait déjà montré à quelqu'un d'autre. C'est merveilleux, ça, comme il nous met en place. Hein. Tu crois que seul à avoir trouvé, tu n'as rien trouvé. C'est l'Esprit de Dieu qui nous le communique. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à Pierre, qui avait fait une belle confession? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pas toi qui as trouvé ça tout seul. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et c'est cela qui est tellement merveilleux. Et quand je pense aussi aux réformateurs, des gens qui ne se connaissaient pas, hein, c'était tous des catholiques, mais qui souffraient terriblement de la ligne que prenait l'Église, de la corruption qui s'installait dans l'Église parce qu'elle voulait imiter le monde. Et voilà des hommes de Dieu qui étaient des catholiques, qui ne se connaissaient pas, un Luther en Allemagne qui était un moine, un Calvin en France, un Guillaume Farel et d'autres encore, ou Wycliffe en Angleterre, ou tout ce que vous voudrez, hein. Souvenez-vous de tout cela. Au fond, dans le même temps, mais sans se connaître, ils avaient les mêmes pensées. C'était le souffle de l'Esprit. Et c'est cela, quand Dieu fait son œuvre, il nous amène à avoir les mêmes pensées, même si on ne s'est jamais parlé, même si on ne se connaît pas. Et alors, on est réchauffé et on voit l'unité de Dieu qui, indépendamment de notre langue, de notre race, de notre couleur, travaille parce qu'il aime tous les hommes. Il a tant aimé le monde. Et voilà pourquoi nous avons appelé ce temps Mahanaïm, parce que nous voulions que ce soit le camp de Dieu. C'est ce que veut dire Mahanaïm, le camp de Dieu. Non pas le camp d'une secte, le camp d'une communauté particulière, mais le camp de Dieu où tous se sentent accueillis par le cœur de Dieu, se sentent à l'aise, par, on n'essaye pas de les engager dans ceci ou dans cela, mais parce qu'ici, nous essayons de remplir les cœurs de l'amour de Jésus. Et quand le cœur est rempli de l'amour de Jésus, il conduira vos pieds. Voyez-vous, nos pieds vont toujours où nous mène notre cœur. C'est vrai ou c'est faux? Alors, souvenez-vous de cela. Laissez votre cœur se remplir de Jésus et votre cœur vous conduira là où le Seigneur le désire. Et maintenant, une septième règle, c'est que nous devons toujours expliquer l'écriture par l'écriture. Vous avez vu le verset que nous avons lu, il ne faut pas ajouter à l'écriture mes propres pensées. Et c'est l'erreur qu'ont fait plusieurs théologiens en traduisant même le Cantique des Cantiques. Il y avait des difficultés et ils ont cru qu'ils pouvaient corriger, arranger les choses. Et ils ont mis des sous-titres qui ne collent pas du tout. C'est pourquoi nous vous avons donné un texte qui n'a pas de sous-titres. Parce que si vous lisez dans vos Bibles le texte du Cantique des Cantiques, vous serez tout à fait perdu. Parce qu'il y a des gens qui ont osé mettre ceci et cela. Alors que dans le texte hébraïque, il n'y a pas ces choses-là. Et nous voulons rester fidèles au texte tel que nous l'avons reçu et tel qu'il a été inspiré par Dieu et non pas disséqué par des grands savants. Alors, ceux qui se moquent d'une affirmation biblique, nous voulons nous souvenir que Jésus a dit, parce que de son temps déjà, on ne croyait pas ceci, on ne croyait pas cela. Eh bien, il a dit, vous errez, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On est docteur en théologie et on ne connaît pas les Écritures. Et on peut ignorer la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus disait au grand docteur de son temps, qu'il niait les anges, qu'il niait les miracles, qu'il niait la résurrection, ces gens qu'on appelait les Sadducéens. Et qui était la classe dirigeante du peuple au temps de Jésus. Et l'autre règle, c'est que le Seigneur sait que nous sommes lents à croire et à comprendre. Aussi, c'est pourquoi il nous explique dans toutes les Écritures les choses qu'il regarde. C'était Luc 24. Il nous dit, mais comment tu n'as pas encore découvert cela? Alors, il prend du temps, comme avec les disciples de Maïs. Et il commence par la loi, par Moïse, par les prophètes. On dit, mais pourquoi tu parles de tout cela? C'est pas dans le sujet. Nous, nous sommes préoccupés de ce qui s'est passé à Jérusalem. Puis toi, tu nous ramènes à Moïse. Tu nous ramènes aux prophètes. Mais c'est justement parce que c'est dans la loi, les psaumes et les prophètes qu'on a la clé des événements actuels. Comprenez-vous? C'est pas en regardant la télévision et en lisant tous les journaux que vous aurez les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles, nous les avons dans l'Écriture sainte. Et il faut être versé dans l'Écriture sainte. C'est cela qui doit compter pour nous. Alors vous aurez une vue très nette des choses qui vont arriver. Vous serez averti avant. C'est tellement beau. J'aime tellement cette histoire de Siméon. Étant averti, n'est-ce pas, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu qui? Jésus. Il arrive, ça se réalise. C'est tellement vrai, ça. Croyez-le, le Seigneur va vous avertir. Et il y a une grâce prévenante extraordinaire quand on veut dépendre de lui. Oh, le Saint-Esprit, ce n'est pas des mots, c'est une personne qui vous possède. On ne parle plus de posséder, nous, le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous possède. On n'essaye plus de diriger le vent, on se laisse emporter par le vent. C'est tout différent. Hein? Parce que quand on veut diriger le vent, on doit prendre des tuyaux, puis le faire passer par là. Enfin, on a toutes sortes de combines. Tandis que c'est tellement plus simple de se laisser emporter par le vent. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On ne sait pas où nous allons. Hein? Mais le Seigneur le sait. Abraham ne savait pas où il allait, mais le Seigneur le savait, et il l'attendait à chaque étape, et il le renouvelait. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans la dépendance du Seigneur. Alors, si vous restez dans le chapitre 24 de Luc, vous voyez que c'est le Seigneur qui ouvrait les Écritures à ses deux disciples, et pour finir, ses deux disciples reconnaissent, mais il est déjà loin, et alors ils disent, notre cœur brûlait. On a senti notre cœur brûler pendant qu'il nous enseignait les Écritures. Notre cœur ne brûlait-il pas? Et je voudrais avoir jusqu'à mon dernier souffle un cœur qui brûle. Et c'est des fois très frappant de voir qui Dieu emploie pour nous rappeler cette chose-là. J'ai reçu il y a 2 ans, alors que j'étais très peu bien, une lettre d'un de mes amis de Jérusalem, qui est un prêtre, qui est un... un théologien lui, à Jérusalem et qui me disait, c'est le père Bruno Hussard, qui est dominicain, je demande à Dieu qu'il te donne toujours un cœur qui brûle pour Jésus. Bien, vous savez, ça m'a fait du bien. Un cœur qui brûle pour Jésus. Voilà quelqu'un qui me dit la vérité. Et je bénis le Seigneur de l'avoir employé pour me montrer qu'il n'y a qu'un feu qui doit brûler dans ma vie. Et celui qui nous ouvre l'intelligence dans chapitre 24. Et le Seigneur nous dit que c'est par son esprit que nous comprendrons les choses même les plus difficiles. Il nous donne son esprit, Jean 14 à 16. Et c'est lui qui devient notre mémoire et qui va nous rappeler les choses que le Seigneur nous avait enseignées. Et il y aura aussi le ministère des serviteurs de Dieu, comme ce fut le cas pour l'eunuque d'Éthiopie qui était seul en lisant le texte et ne comprenait pas. Dans le chapitre 8 des Actes, vous avez ce récit, il ne comprenait pas. Il avait pu acheter le rouleau d'Ésaïe, mais il lisait le 53 d'Ésaïe sans comprendre. Et Dieu, lui, s'arrange d'envoyer son serviteur Philippe, qui avait pourtant une tâche incroyable, des responsabilités fantastiques en Samarie, et qui aurait pu discuter avec le Seigneur. Lui, mais Seigneur, moi, ma place, elle est ici, en Samarie, pourquoi tu m'envoies sur un chemin désert? Il y a des multitudes de conversions ici, ma place est là, au milieu de ces convertis. Puis le Seigneur lui dit, non, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Mais c'est pas à toi, Seigneur, qui peux me demander tout ça. Mais Dieu sait qu'il y a une âme seulement, parce que voyez-vous, Dieu ne travaille pas avec la multitude. On ne comprend rien de cela. On vient de lire et de méditer avec le camp familial l'histoire de Gédéon, et on sait tout cela. Et puis on pense toujours qu'il faut des milliers de personnes pour faire le travail. Alors que Dieu travaille avec l'individu. Et ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est le contraire. Reprenez votre lecture biblique depuis le commencement à la fin, vous voyez que Dieu travaille avec l'homme, avec un homme. Je cherche un homme, mais un homme qui se laisse faire par Dieu, qui est la possession de Dieu. Je cherche un homme. C'est cela que nous devons comprendre. Et Dieu veut des hommes et qui soient façonnés par lui dans la puissance du Saint-Esprit. Philippe est allé, il s'est approché de l'eunuque et il a pu lui expliquer à cet homme qui lui dit, mais comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me l'explique? Et puis voilà, il continuera sa route après même avoir été baptisé lorsqu'il rencontre de l'eau. Vous voyez la même chose chez Corneille, les païens qui se convertissent au Seigneur et qui sont baptisés après avoir même reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit d'abord, puis ils ont été baptisés après. Donc, vous voyez, Dieu est entièrement libre de nous donner les choses comme il le veut, selon ses conseils à lui. Et puis, quand vous lisez le livre des Actes et que vous voyez Paul qui commence son ministère dans la ville macédonienne de Philippe, c'est la première ville européenne qui a été évangélisée. Eh bien, comment est-ce qu'il a évangélisé cette ville européenne, la première ville européenne? Il a envoyé des messagers pour préparer toute son action. Il a employé toute la publicité de ce temps, il y en avait déjà aussi? Non, pas du tout. Il est arrivé sans connaître personne. Dans cette ville, puis qu'est-ce qu'il a cherché? Le petit groupe juif qui se réclamait du vrai Dieu, et ils n'avaient pas même une synagogue parce qu'ils n'avaient pas de grands moyens, il n'y avait qu'une petite communauté juive, mais ils se tentaient de savoir où le jour du sabbat ils pouvaient se réunir. Puis il est allé au bord d'une rivière où se réunissaient les femmes, il y avait là un lieu de prière, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Que des femmes misères. Des femmes. Ce n'est pas la peine que juge ma salive pour des femmes. Il n'y a pas d'homme, je ne pourrais rien faire, quelques femmes. Puis voilà qu'il parle à ces femmes, mais il parle avec son amour, avec son cœur chaleureux. Ce n'est pas sa présence, ce n'est pas sa personne, puisque on nous a dit souvent que l'apôtre Paul était laid, il était petit, etc. C'est pas la personne, c'est pas l'apparence extérieure, vous l'avez entendu ce matin. C'est la leçon de Samuel. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence extérieure, il regarde au cœur. Alors, quelle que soit la stature de Paul, ce qui compte, c'est sa stature spirituelle. Et voilà notre Paul qui expose avec Silas. Puis là, il y a une femme. C'est une marchande. Figurez-vous, une marchande s'est intéressée aux choses de Dieu. Mais oui, elle craignait Dieu. Elle avait un commerce de pourpre. Elle venait de la ville de Thyatire. Elle craignait Dieu. Et il est dit que Dieu lui permit d'être attentif aux choses que Paul disait. Et il lui ouvrit le cœur. Oh, mais c'est tellement beau, ça. C'est Dieu qui a ouvert le cœur à cette femme. Elle croit, elle est baptisée, elle est sa maison, c'est qu'elle a une influence sur sa maison. Hein. Est-ce que vous avez une influence sur les vôtres, sur vos enfants, sur votre maison? Lydie, marchande, elle avait une influence sur sa maison. Vous avez des enfants, ayez une influence divine sur vos enfants. Et le Seigneur vous bénira. Je le dis pour tous. Je me le redis à moi pour mes petits-enfants. Et que la grâce du Seigneur nous soit donnée et que nous puissions croire qu'il est capable d'ouvrir le cœur. Et une fois que son cœur est ouvert, qu'est-ce qu'elle fait? Nous voulons construire toute espèce de bâtiment nouveau, mais c'est très bien, je ne dis rien contre cela. Mais regardez les méthodes de Dieu. Une fois que le cœur de cette femme est ouvert, elle dit, si vous m'en jugez digne ou fidèle, ma maison est à vous. Voilà. C'est tellement merveilleux. L'enchaînement de Dieu. Et alors, il y a la première assemblée qui se réunira, la première église dans la maison de Lydie. Puis après, vous avez l'histoire du geôlier de Philippe. Eh bien, vous voyez les méthodes de Dieu quand on est dans sa dépendance. Et quand vous continuerez, vous lirez dans Romains, chapitre 15, que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, l'a été écrit pour notre instruction, pour que par la consolation que donnent les Écritures, nous ayons espérance. Est-ce que vous qui allez nous quitter, est-ce que vous avez saisi cela? Est-ce que ça vous a consolé, l'Écriture? Est-ce que vous avez reçu une consolation? Est-ce que votre espérance a été renouvelée? Ou bien est-ce que Paul s'est trompé en disant que toutes les Écritures, l'Ancien Testament, ce livre du Cantique des Cantiques, devaient vous consoler? Qu'il était le Dieu de la persévérance, qui veut achever l'œuvre qu'il a commencée dans vos cœurs. Et puis, lisez plus loin dans 1 Corinthiens, chapitre 10, que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous, donc ça va nous parler à nous, Dieu nous parle par ces textes. Et si quelque chose vous est voilé, c'est toujours Satan qui nous voile l'Évangile, pour que la lumière de la gloire de Dieu ne resplendisse pas sur nous. Or, justement, 2 Corinthiens 4, verset 1 à 6, le Seigneur voudrait faire resplendir la lumière de la gloire de Dieu sur nous, pour que nous puissions découvrir qui est Dieu. Toutes les perfections invisibles de Dieu ont été manifestées sur quel visage? Le visage du Christ. Et si je veux connaître Dieu, j'ai qu'à contempler le Christ. Et quand je contemple le Christ, je vois toutes les perfections, l'ensemble de la gloire de Dieu. Toutes ces perfections sont manifestées dans sa face. Et en le contemplant, je suis transformé moi-même à son image et à sa ressemblance. Non pas par mes efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 13, eh bien, nous voyons que dans sa grâce, Dieu nous amène à reconnaître que dans tous les textes, c'est la parole de Dieu. Nous recevons ces textes comme étant non pas les paroles de l'homme, mais la parole de Dieu. Et nous nous attachons à la lecture, nous continuons de lire et de relire l'Écriture, d'entendre et de réentendre les mêmes choses, parce que c'est notre sécurité. Et ce que nous croyons, pour terminer, ce que nous croyons, c'est que toute l'Écriture, c'est que Timothée 3, 16 à 17, est inspiré de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice afin de nous rendre propres à toute bonne œuvre. Alors croyez-le, vous allez corriger, vous aviez des pensées, et tout à coup vous réaliserez, oui, mais enfin je suis en train de suivre un courant théologique. On parle toujours des courants théologiques. Une fois on a étudié à Châteauguay, justement avec des prêtres, il y avait au moins 10 courants théologiques différents. Ça dure une vingtaine d'années, puis après ça passe. Puis un autre courant. Alors maintenant c'est la théologie de la libération. Mais avant il y en avait un autre. Quel bonheur de revenir à la parole et de nous laisser imprégner par elle. Et puis, alors, vous êtes des bienheureux. Car, nous l'avons dit, comme ceux qui se mettent à lire l'Apocalypse en disant « mais c'est un livre trop compliqué », on dirait qu'ils ont sauté par-dessus, hein. Ils jouent à saute-mouton, et ils sautent sur le troisième verset. « Bienheureux celui qui lit, ceux qui entendent, et qui garde, qui met en pratique les paroles de ce livre. » Il y a une béatitude pour ceux qui lisent le livre même le plus compliqué, mais dans la dépendance du Seigneur. Alors nous avons appelé le Cantique des Cantiques, qui est au centre de la Bible, l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Il vous semble incompréhensible, mais pourtant c'est ce livre qui contient la révélation. Que veut dire Apocalypse ? Révélation. C'est la révélation du bien-aimé. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Nous allons faire un arrêt. Comme il pleut, est-ce que vous voulez aller dehors ou bien est-ce qu'on peut encore continuer? Mais on va changer de position, on va chanter un cantique. Et puis, comme c'est justement le jour charnière, on pourra peut-être poursuivre. À moins que vous en ayez assez. Bien, après ces quelques règles que nous suivons quand nous sommes à l'école de Jésus, nous abordons le livre, nous l'avons abordé au début de notre temps, en constatant que nous nous trouvions en présence de 117 versets et de 1251 mots et même de 5148 signes, caractères. Et nous avons simplement dit qu'il y avait en tout cas trois grands courants d'interprétation du Cantique des Cantiques. Un, l'interprétation profane et naturaliste, qui voit simplement dans cette lecture, où il est parlé de sein, où il est parlé de ventre, où il est parlé enfin des yeux, de chevelure, de dents, eh bien, on y a vu tout simplement l'amour, ce qu'on appelle amour, en deux amants. Au fond, la cohabitation. Et ça, c'est un courant très fort aujourd'hui, parce qu'on veut justifier la cohabitation. Et même des chrétiens qui ont des enfants, qui cohabitent, eh bien, seraient plus ou moins disposés à avoir une justification de leur manière de faire, de vivre, par le Cantique des Cantiques. Et il y a des livres qui circulent, et qui sont en librairie, et que l'on vend, écrits par des pasteurs, qui vous montrent simplement que c'est l'amour, quand on parle de saints, c'est les saints, et on sait ce qu'on fait avec les saints. On a oublié que les saints avaient été donnés pour nourrir un enfant. Mais ma femme m'a peut-être corrigé en me disant que ça revient de nourrir son enfant. J'ai été heureux de cette bonne nouvelle, vous savez. Moi, je veux être pessimiste, mais si on me dit que maintenant les femmes recommencent à allaiter, alléluia! Elles ne s'en trouveront pas plus mal. Et la génération qui viendra sera une génération plus saine. Parce que Dieu avait donné aussi les saints pour nourrir la progéniture de l'homme et de la femme. Eh bien, je me réjouis de cette chose et je me corrige. Il y a une deuxième interprétation qu'on appelle l'interprétation littéraliste, où alors on voit l'amour de l'homme et de la femme, mais dans le mariage. Et alors, ben oui, vous pouvez tirer toute espèce de leçon du Cantique des Cantiques, si vous voulez le prendre comme ça. Mais ce serait l'amour tel que Dieu l'a donné dans le couple, parce qu'il n'a pas créé de femme pour Adam. On a vu ce qui arrivait dans le ménage d'Elkana, quand il y avait deux femmes. Il y en a une qui jalousait l'autre et qui humiliait l'autre. j'ai pas pu développer beaucoup ce matin, mais enfin, vous avez les grandes lignes. Eh bien, Dieu avait fait une femme pour Adam, l'aide, et qui lui correspond. Et tout était admirable. Il n'y avait pas de honte, même dans la nudité. Il n'y a pas de tabou dans ce sens-là, c'est vrai. Quand on relit la parole d'une façon intelligente et saine, on est à l'aise. Il n'a pas fabriqué la femme, fait la femme de la côte d'Adam, et puis pour la présenter à Adam, il lui a fait un manteau de fourrure. Non. Elle était telle qu'elle est sortie des mains du Créateur. La fourrure, il l'a fait après la chute, pour couvrir une fois dehors. Alors, évidemment, il y a un sens spirituel dans le Cantique des Cantiques pour inspirer une union conjugale, mais sous le regard de Dieu, où l'on se garde fidèle l'un pour l'autre, mais où il y a les vraies fiançailles, et où l'on se respecte dans les fiançailles, parce que, justement, la chasteté, aussi bien pour la femme, pour la jeune fille, qui est toujours appelée jeune fille quand elle est vierge, que pour le garçon, parce que les garçons nous disent, ben c'est bon pour les filles, nous, on veut épouser une vierge, oui, mais eux, et quand vous trouvez des jeunes filles chrétiennes qui nous disent, moi je ne voudrais pas un vierge parce que j'aurais peur, il n'a pas le pratique. C'est quand même drôle, hein, toutes ces autos d'occasion. Vous n'êtes pas quelque chose de neuf? Insensé. Ça vous satisfait les occasions? Bon. Nous devons retrouver un peu d'équilibre et revenir aux sources et boire à ces eaux pures. La chasteté du jeune homme donne à la jeune fille la certitude qu'il saura aussi être maître de ses sens dans le mariage. Et c'est une garantie pour la jeune fille que dans le mariage, il ne l'abandonnera pas, parce que dans le mariage, il y a souvent bien des jours ou des mois même où l'on ne peut pas avoir de relations sexuelles. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se servir ailleurs? C'est pour les bons et les mauvais jours. Et si votre mariage est basé uniquement sur le sexe, ben ça ne tient pas. Regardez un peu toutes ces idoles du monde, toutes ces vedettes. À combien de mariages en sont-elles? Et quand on en entend une qui dit, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. C'est pour ça qu'elle est drôlement spécialiste, d'après ce que le monde appelle l'amour. Puis elle dit qu'elle ne sait pas ce que c'est. C'est comme les philosophes qui nous disent, mais ceux qui ont écrit sur la sexualité avouent qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'avouent. Freud n'a pas expliqué ce qu'est la sexualité. Alors que la parole, quand on revient à la parole, il y a des traits de lumière qui nous sont donnés, non pas pour nourrir nos mauvaises pensées, mais pour nous sanctifier, pour nous faire aller au-delà. Et alors, en dehors de cette interprétation littéraliste, il y a l'interprétation allégorique, celle que nous avons eu à cœur de suivre, ici, dans ce camp, où l'on voit l'amour de Dieu pour l'âme humaine et les expériences qu'une âme humaine fait avec le Seigneur quand il est en relation avec le Seigneur. L'amour de Dieu pour le peuple d'Israël, quand on lit à la manière juive, le bien-aimé c'est Dieu, la bien-aimée, c'est le peuple d'Israël. Et puis, quand on lit à la manière chrétienne, au cours des siècles qui ont suivi Jésus-Christ, la bien-aimée, c'est l'Église, le bien-aimé, c'est le Seigneur. Mais résumons tout cela en disant que c'est la relation de Dieu avec l'âme humaine. Alors, pour nous, quand on lit cela avec un cœur d'enfant, l'auteur du Cantique des Cantiques, eh bien, on ne discute pas, c'est Salomon, il le dit que c'est Salomon, dont le nom veut dire le pacifique. Et le nom de la bien-aimée, c'est Shulamit, qui est au fond le pluriel, le féminin de Salomon, et qui veut dire la pacifiée, pacifiée. Hein. Et nous sommes dans l'année mondiale de la paix. Hein. Est-ce que votre cœur est pacifié? À la fin du Cantique des Cantiques, eh bien, elle est comme une personne vraiment qui a trouvé la paix. Elle a trouvé la paix. Dans l'année qu'on dit être, l'année de la paix. Est-ce que la paix, vous l'avez dans votre cœur? Est-ce que la paix, vous l'avez dans votre âme? Est-ce que vous êtes pacifié? Shulamit, la pacifié. Et alors, nous sommes en présence d'un poème sacré qui offre justement ce tableau spirituel de l'union de Dieu avec son peuple. C'est pourquoi les Juifs l'appellent, ce livre du Cantique des Cantiques, le Saint des Saints. C'est le livre le plus saint de l'Ancien Testament pour eux. Et c'est le cantique par excellence, ce que veut dire Cantique des Cantiques, comme on dit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Mais certains ne peuvent pas l'apprendre, ce cantique, parce que pour l'apprendre, pour le chanter, il faut être de ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aiment. Nous avons cité le chapitre 14 de l'Apocalypse à cet égard. Et alors ce livre, je dirais qu'il peut être divisé de différentes manières. Il y en a qui le divisent en 5, il y en a qui le divisent en 7, il y en a qui le divisent en 13, peu importe. Et c'est pourquoi j'aime mieux que nous prenions simplement ce texte comme il est, dans, sans qu'on ait mis notre griffe, notre patte là-dedans, pour diviser, pour dire non mais ça, ça colle pas, il faudrait mettre plutôt ce verset ailleurs. C'est ce que font les théologiens, hélas. Et puis ils ajoutent, puis s'ils ne comprennent pas, ils devinent ce que l'auteur a voulu dire. Et puis quand ils voient qu'il ne leur semble pas que ça s'unit, eh bien ils disent, c'est un autre auteur qui a ajouté quelque chose. Alors ça n'a plus aucune autorité, comprenez-vous? C'est pourquoi j'étais heureux quand c'est Seigneur, je crois, et que, oui, c'est une de nos sœurs qui a relu la fin de l'Ecclésiaste, hein, à faire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin, et beaucoup d'études, lasse la chair. Hein. C'est fatigant, hein, ces études où on dissèque tout cela, et qu'est-ce qui reste pour votre âme? Qu'est-ce qui reste pour votre âme? Où l'on vous dit, non, non, il ne faut pas avoir deux personnages dans cette histoire, parce que Salomon, un roi, ne peut pas être un berger. On oublie que c'est une poésie, que c'est poétique. Alors un roi peut bien être un berger, et puis même un roi doit être un berger, le berger du troupeau. Mais pour eux, non, non, un roi ne peut pas être un berger. Alors Salomon, roi, eh bien, ce serait le monde. Et puis, le berger dont parle la bien-aimée du Cantique des Cantiques, ce serait vraiment son amant à elle. Elle aurait été enlevée par Salomon, nous dit-on, et emmenée dans le harem de Salomon. Puis alors elle trouve, là, les femmes de Jérusalem, ce seraient les concubines de Salomon, puisqu'il en aurait eu 1000 en tout, hein, 700 femmes, 300 concubines, et puis voilà, il y a la Shulamite qui l'a enlevée parce qu'elle était très belle, et puis alors, cette Shulamite, elle résiste à tout ce que lui dit Salomon, qui la flatte, qui parle de sa beauté, et qui essaye de la séduire, et puis elle résiste devant les autres femmes, et elle ne leur parle que de son bien-aimé qui serait dans les campagnes. Et alors, ils sont obligés de dire que tout ce qu'elle dit, elle le dit comme dans des rêves. Quand Salomon lui parle, elle répond à son bien-aimé dans ses rêves, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, un enfant, quand, il ne peut pas comprendre ça. Puisque j'ai écrit pour un enfant, hein, pour ceux qui ont un cœur d'enfant, vous ne pouvez pas faire ça. Et puis, vous arrivez à un tas de contradictions. De sorte qu'il n'y a pas trois personnages, il y en a réellement deux. Et c'est comme ça que vous pouvez recevoir une bénédiction. Salomon est l'image du bien-aimé, vraiment, mais oubliez de ce qu'était Salomon, il y a un plus grand que Salomon dans ce livre. Et puis, la Shulamite, Eh bien, c'est vraiment l'âme qui a soif de grandir, de connaître de plus en plus celui qui est son fiancé divin et pour lequel elle se réserve en vue du jour des noces, parce qu'elle sera pure pour appartenir à son bien-aimé. Et alors ce sont ces relations merveilleuses qu'il y a entre les âmes et que nous connaissons quand nous laissons le Seigneur qui nous a sauvés nous façonner. Et une fiancée, elle se prépare en vue du jour des noces. Dans sa pensée, elle est déjà dans son futur home. Elle prépare son trousseau. Voilà notre vie terrestre depuis notre conversion. Alors, si je voulais résumer tout cela, je dirais, je verrais 5 cantiques dans ce livre du Cantique des Cantiques, ou 5 strophes, si vous voulez. On a fait, dans la semaine qui vient de s'écouler, on en a étudié 3 de ces cantiques. Chapitre 1, verset 1 à 2, verset 7. Ce serait la première strophe ou le premier cantique qu'on pourrait intituler « La joie dans l'amour » ou « La joie de l'amour ». Chapitre 2, verset 8 à 3, verset 5, où nous pourrions voir une deuxième strophe ou un deuxième cantique, le désir de l'amour, la joie de l'amour, le désir de l'amour. Puis chapitre 3, verset 6 à 5, verset 1, l'appréciation de l'amour. Joie de l'amour, désir de l'amour, appréciation de l'amour. J'essaye de résumer. Puis il nous reste alors pour cette nouvelle semaine 2 autres cantiques, chapitre 5, verset 2 à 8, verset 4, la satisfaction de l'amour, et puis chapitre 8, verset 5 à 14, la communion de l'amour, parce que c'est vraiment de l'amour qu'il est question là. La satisfaction de l'amour, voilà ce que nous allons voir, et la communion de l'amour. Alors nous avons vu comment Dieu ranime nos affections pour lui dans les chapitres précédents. Et alors, quand nos affections sont ranimées pour le Seigneur, nous désirons sa présence. Et c'est quand la présence du Seigneur est désirée dans un cœur que lui-même alors répond à notre invitation et il viendra à nous et se plaira à accueillir, à goûter et à partager ce que notre faible amour aura à lui offrir. Et ce qu'on a à lui offrir, c'est ce que lui a fait grandir, a fait croître, a fait germer dans le jardin de notre cœur. C'est lui qui fait germer tous les arômes, tous les fruits, toutes les fleurs de notre vie. Et voyez-vous, chacune de vos âmes et comme une fleur du paradis. Chaque vie a sa couleur, comme chaque fleur, et chaque vie a son parfum, et que ce soit le parfum du bien-aimé. Chaque vie est porteuse d'un message, et s'il n'y avait que vous qui existiez, eh bien, ça suffirait au cœur de Dieu. Vous pouvez vraiment penser que vous êtes seul pour lui. C'est quelque chose de merveilleux. Dans la multitude du monde, c'est comme si vous étiez seul. Vous êtes là seul. Vous êtes l'unique. Votre âme est unique pour le Seigneur. Ça ne vous réconforte pas? C'est pas moi qui vous le dis. Toute l'Écriture vous montre que quand Dieu s'occupe d'une âme, il s'occupe d'elle comme s'il n'y avait qu'elle. Il ne dit pas, oui, mais je vais faire aussi quelque chose ailleurs. Il se donne à vous. Tout entier. Et il a du temps pour vous. Alors au verset 2 du chapitre 5, vous avez pu comprendre qu'on peut se reconnaître dans cet égoïsme qui nous est manifesté chez la bien-aimée. Je me reconnais dans mon égoïsme, dans ma nonchalance, qui est si souvent coupable. On prend du repos. Mais on est au Seigneur, bien sûr. Et voilà, tout à coup, il frappe. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Mais voilà, il y a la tiédeur spirituelle, l'amour de nos aises, la négligence à nous juger. Et ça nous fait trouver même excuse pour ne pas écouter la voix de son esprit. Et alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il tape plus fort? Non, il disparaît. Le Seigneur ne s'imposera jamais à vous. Si vous ne le désirez pas, si vous ne voulez pas une touche de grâce de sa part, vous ne l'aurez pas. Mais il vient. Il vous dit, ouvre ma bien-aimée. Tu ne veux pas? Oh, mais je me suis bien lavé les pieds avant. Si je me lève pour t'ouvrir, je risque de me salir les pieds. On a toute espèce d'excuse. Vous allez méditer encore là-dessus, hein, aujourd'hui. C'est pour ça que je ne vous ai pas posé de questions. Parce que je voulais seulement un peu vous orienter, puisqu'il y a des nouveaux. Vous allez maintenant reprendre ce chapitre, et nous allons poser les questions ce soir. Hein. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit, personnellement, à vous, en lisant ce texte, depuis le verset 2? Parce que nos jeunes amis qui sont venus s'ajouter à nous vont retrouver dans la suite tellement de textes qui vont nous ramener en arrière que vous allez comprendre quand même tout ce qu'il y a avant. Parce qu'on va retrouver la colombe, on va retrouver tout ce qu'on a déjà étudié. Et on va pas redire des choses nouvelles. Hein. Oui, il y en aura des choses nouvelles. Mais les anciennes, vous les comprendrez. Et puis, alors, je vous le demande encore une fois, je ne le ferai plus. Vous, les nouveaux, qui vous ajoutez à notre camp, lisez pour vous-même aujourd'hui les 8 chapitres. Et avant le soir, posez-vous déjà des questions sur le texte verset 2 au verset 16. Parce que ce soir, nous irons dans notre étude jusqu'au verset 16. Et comme cela, ceux qui partent auront encore le chapitre 5 qui aura été commenté non avec mes lumières, mais à la lumière de l'Esprit de Dieu. Et puissiez-vous déjà cet après-midi vous rendre compte qu'il nous faut écouter la voix de l'Esprit. Parce que si le Seigneur a passé plus loin, c'est avec joie. Qu'est-ce qu'il a laissé sur la poignée? Et qu'est-ce que c'est l'amour? La souffrance. Il a souffert de ce que vous n'ayez pas ouvert. Alors, il a passé plus loin, mais il a laissé dégoûter la mire, une souffrance. Est-ce que vous voulez donner de la joie au Seigneur, ou bien est-ce que vous voulez lui donner de la souffrance? Comprenez-vous? Nous voulons lui donner de la joie. Alors, sachons, pour retrouver sa communion, parce que c'est d'une communion perdue qu'il est question. Et puis, c'est tellement vrai dans notre vie, dans notre expérience personnelle, on est en communion avec le Seigneur, puis tout d'un coup, on est à plat. Quelques-uns ont dit qu'ils venaient recharger leur batterie. Hein. Mais, mes amis, il n'est pas question seulement de recharger votre batterie. Certes, ça peut vous faire du bien, hein, mais il est question de la maintenir. Parce qu'alors, si vous attendez une année pour recharger la batterie, vous n'aurez pas roulé. Or, nous voudrions que vous circuliez. Hein. Alors, mes amis, sachons, pour retrouver la communion, déployez